L'évangile de Marc, chapitre 12, et nous lirons les versets 13 à 17. Verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire : Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne redoutes personne. Car tu ne regardes pas l'apparence des hommes, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César ? Devons-nous payer ou ne pas payer ? Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit : Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve ? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda : De qui sont cette effigie et cette inscription ? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit : Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient dans l'étonnement à son sujet. Nous continuons donc à essayer de comprendre la vie de notre Seigneur, son ministère terrestre, et nous arrivons maintenant au milieu de cette dernière semaine de son ministère sur la terre. Vous vous rappelez que Jésus est entré à Jérusalem de manière publique et spectaculaire sur cette âne avec des cris d'acclamation. Les gens qui l'accueillent comme le Messie. Et pour la première fois, Jésus ne cache pas son identité messianique. Il laisse faire. Et maintenant, c'est un grand point changeant. Le Seigneur ne dissimule rien et ouvertement, il indique qu'il est effectivement le Messie et le Fils de Dieu. Il juge tout de suite à son arrivée en maudissant le figuier qui représente Israël, vous vous rappelez, et en renversant les tables des vendeurs dans le temple, et en jugeant le judaïsme de l'époque et ses leaders comme étant hypocrites et loin de Dieu. Voilà, c'est sa manière d'entrer. Tout est clair. Il se réserve le droit d'aller dans le temple de Dieu et déterminer ce qui doit en être. Et il raconte une parabole d'un propriétaire de vigne qui envoie des serviteurs l'un après l'autre pour obtenir sa récolte de la part de ceux à qui il a loué la vigne. Des mauvais hommes qui tuent chaque serviteur, et puis il dit : Je n'ai que mon fils maintenant. Ils le respecteront. Et il envoie son fils. Et ils disent : Celui-ci est l'héritier, tuons-le, et la vigne sera à nous. Et les responsables religieux comprennent bien la parabole, indique Marc, et ils savent qu'ils sont les mauvais vignerons et que Jésus est en train de dire qu'il est le Fils et pas simplement un autre dans la suite des serviteurs. Il est le Fils qui sera tué par les responsables religieux. Tout est tellement clair et radical dans cette semaine. Et il commence des jours d'attaque constant par rapport à Jésus dans le temple, où il vient chaque jour encore pour enseigner ouvertement une dernière fois, pour appeler Israël à lui. Par quelle autorité est-ce que tu fais ces choses? Et derrière les attaques que nous avons déjà commencé à étudier, et nous en sommes à la deuxième, il y a le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le corps gouvernemental du pays, ceux qui gouvernent, et qui est fait de trois groupes de personnes, les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Et vous allez voir, si vous regardez un peu le passage, qu'à partir d'aujourd'hui, on va avoir chacun de ces trois groupes qui viennent avec une question qui leur est propre. Aujourd'hui, nous voyons les pharisiens qui viennent avec une question sur l'impôt. Juste après, vous voyez à partir du verset 18, les sadducéens viennent avec une question concernant la résurrection. Et après, vous voyez à partir du verset 28, un des scribes vient avec un problème d'interprétation de l'Ancien Testament. Chacun est dans son point fort et essaie de piéger Jésus, de le prendre dans une parole à partir de ces questions. Vous allez voir qu'il y a, je pense, cinq ou six objections qui reviennent jour après jour pour attaquer Jésus. Et je ne sais pas si vous avez eu cette expérience de faire part de l'évangile à quelqu'un, et quand il amène une objection, vous répondez, il amène une autre, vous répondez, il amène une autre, vous répondez, et pendant... Moi, j'ai eu l'expérience de passer 2 heures avec quelqu'un, et chaque fois que je réponds, il n'a plus rien à dire à cela. Après 5 objections, il ne dit pas « mince ». Là, ça me montre quelque chose. J'ai eu tort 5 fois de suite, tu as eu raison, et au lieu de t'amener une 6e objection, il vaudrait mieux que je me questionne moi-même. Est-ce que les gens fonctionnent comme ça? Est-ce que les pharisiens sont venus à Jésus après 5 fois pour dire « Vous nous avez montré que nous, on ne sait rien. Toi, tu sais tout. Nous ne devrions pas t'attaquer, mais nous mettre à tes pieds. Merci de nous avoir montré cela. » Mais loin de là, les gens en général continuent tout simplement à fouiller dans leur cerveau pour trouver une autre objection. Parce que le problème n'est pas intellectuel. Le problème n'est pas qu'il y ait des vraies objections. Le problème est moral dans le cœur. Ils ne veulent pas que Jésus-Christ soit le Messie et soit la sorte du Messie qu'il est. Donc, nous abordons sur votre feuille le premier point après cette introduction. Des ennemis font cause commune contre Jésus. Le verset 13 nous dit qu'ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens. Alors, si vous viviez au 1er siècle, vous auriez dit « quoi ?» Mais vous n'avez rien dit. Parce que vous n'avez pas compris de quoi il s'agit. Alors, les pharisiens sont les gens qui sont archi contre Rome, contre l'Empire romain. D'accord ? Qui est une puissance païenne qui essaie de dominer sur le peuple de Dieu. Les Hérodiens, pensez au mot Hérodiens, sont les gens qui sont pour Hérode, le gouverneur romain. Ils sont archi pour l'Empire romain. Et ce sont des Juifs qui compromettent partout. Et les deux groupes se détestent, comme la gauche et la droite française. Mais là, ils viennent ensemble parce que vous savez, ils se détestent, mais ils détestent Jésus encore plus. Et vous savez, une haine commune créer des alliances un peu bizarres. Donc voilà ce qui se passe ce jour-là. Ils envoyèrent, c'est-à-dire le Sanhédrin, ces deux groupes avec une question bien ficelée et longuement, je crois, réfléchie. Vous allez voir. Et ce verset nous dit qu'ils sont venus pour essayer de surprendre, je ne sais pas ce que votre verset dit, afin de prendre au piège, moi, ou surprendre. Mais piéger, c'est le mot. Et en fait, c'est un mot violent dans la langue grecque. Ils veulent piéger Jésus. Ils veulent le faire perdre sa vie par une parole. La méchanceté de cela est grande. Et il commence, et c'est notre deuxième point, avec l'arme de la flatterie. Vous l'avez remarqué quand je l'ai lu? La manière dont je l'ai lu. Il commence en disant, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne redoutes personne. » Car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Eh bien, au moins pour une fois, ils ont dit quelque chose de vrai. Ils ont dit quelque chose de vrai et que tout le monde autour sait est vrai. Mais vous savez que la flatterie marche comme ça. La flatterie, c'est prendre quelque chose de vrai et de bien chez quelqu'un et l'utiliser pour essayer de manipuler cette personne. Vraiment, tu es le meilleur prof que j'ai au lycée. J'espère qu'il va me donner une bonne note, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est peut-être vrai. Mais vous voyez comment la flatterie marche? Et donc, ils viennent avec cette ruse de flatter Jésus en pensant incroyablement pour nous, hein, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne voit pas à travers? Comment peuvent-ils faire cela? Et nous voyons que Jésus tout de suite répond en disant, Jésus qui connaissait leur hypocrisie leur répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve ?» C'est intéressant, la première réponse de Jésus n'est pas de répondre à la question, c'est d'exposer et braquer une lumière sur leurs motivations intérieures immorales. Et la situation commence déjà à changer dès que Jésus ouvre ainsi la bouche. Et c'est ce qu'il fait avec nous aussi. Si j'arrive pas, je vais tout simplement laisser tomber ça. Donc, nous voyons que notre Seigneur, le Fils de Dieu, fonctionne dans ce monde invisible et moral et spirituel, et il y va tout de suite vers le plus important, leurs intentions, et il dévoile tout, n'est-ce pas? Mais je me devance un peu. Donc nous étions en train de dire qu'ils essaient de, comme le livre de Proverbes dit, celui qui use de flatterie avec son prochain, lui tend un filet. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Maintenant, nous arrivons au piège tendu, le troisième point. D'abord, quelle est la chose en question? Ils parlent de quoi? Alors, nous lisons dans le passage qu'ils disent, est-il permis devant Dieu, de payer le tribut à César, devons-nous payer ou ne pas payer? Payer le tribut. En fait, ils sont en train de parler d'un impôt inauguré à l'époque de Quirinius, à peu près l'année où Jésus a 12 ans et il entre dans le temple, vers 6 ans de notre ère, Quirinius, à cause d'une autre recension, impose un impôt sur la Judée. pas sur le nord d'Israël, mais seulement la Judée, parce que c'est seulement la Judée qui est sous domination directe de l'Empire romain. D'accord? Et donc, cet impôt, c'est un denier par année, par personne. Un denier, c'est une journée de salaire. Cet impôt a tout de suite, dans l'année 6 de notre ère, provoqué une révolte. Et menée par un homme qui s'appelle Judas de Galilée, dont nous parle Joseph, Flavius Joseph, l'historien juif, a soulevé le pays, donc contre l'Empire romain, en disant que le peuple était lâche de payer un impôt à l'Empire païen et à reconnaître des seigneurs mortels, alors que le Dieu vivant était le seul seigneur d'Israël. C'était ça sa manière de voir. Et donc, il a commencé un parti politique un peu qui s'appelait les Zélotes, qui existe encore au moment où nous parlons. Et même quelques-uns des apôtres, des disciples de Jésus, avaient appartenu à ce parti avant de devenir ses disciples. Donc, tout cela pour vous dire que, juste un détail de plus. Quand l'Empire romain va venir détruire la ville de Jérusalem en 70, une partie de cela, c'est que les Juifs se sont soulevés encore à cause de cet impôt. C'était encore un facteur dans le mélange. Donc vous voyez que cette question, ce jour-là, devant Jésus, par les pharisiens et les hérodiens, c'est une grande affaire. C'est une grande affaire pour le pays. Donc ça, c'est la chose en question. Le sens de la question est donc très politique, mais très théologique. Donc c'est ce que je vous disais, que selon Judas le Galiléen, on ne peut pas donner son allégeance à l'empereur romain et à Dieu à la fois. Tu ne peux pas à la fois avoir un président humain et certains dieux, n'est-ce pas? Il y a certaines religions, même aujourd'hui, qui disent qu'il n'y a que la théocratie qui est permise par Dieu. Donc il faut qu'on installe la loi charia. C'est Dieu seul qui règne. Cette sorte d'idée, c'est pas nouveau. Je vais enlever ça parce que ça ne va pas. On achète un nouveau micro. Il n'est pas fait pour rester accroché. Donc c'est pas une nouvelle idée. Les hommes ont souvent pensé de cette manière quand ils ont adopté des idées religieuses un peu bancales. Voilà donc le sens de la question, et je vais y revenir tout à l'heure. Le piège derrière la question. Jésus est maintenant mis dans une situation délicate. Parce que si Jésus dit oui, il faut payer l'impôt, son effet de sa prétention messianique. Parce que le peuple qui n'aime pas cet impôt va dire, il prétend être le Messie, et lui, il s'aligne avec César, le païen. Parce qu'il faut bien savoir que sur cette pièce d'argent, il est une inscription qui dit « Divi aug filius ». C'est-à-dire, l'image de l'empereur est là, avec ces mots, « le fils du divin Auguste ». L'empereur Auguste, qui est venu avant, maintenant c'est Tibérius. Donc, Le piège, c'est que si Jésus dit oui, le peuple va se soulever contre lui comme un transgresseur de la loi mosaïque, comme quelqu'un qui se range derrière l'empereur païen. S'il dit non, il ne faut pas payer, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les Hérodiens, qui sont un des deux groupes, là, le prennent tout de suite et l'amènent au gouverneur en disant: ce monsieur veut pousser les gens à se soulever contre l'Empire. Donc, s'il dit oui, les pharisiens l'ont, parce que il a, semble-t-il, en apparence au moins, il a transgressé la loi mosaïque. Et s'il dit non, les Hérodiens le prendront. C'est pour ça qu'il y a les deux groupes ensemble. Chacun cherche à ce qu'il réponde d'une manière et ou bien à l'autre. Et nous pouvons comprendre que Jésus ne peut pas mourir ni comme transgresseur de la loi mosaïque, et il ne peut pas être écarté comme transgresseur, et il ne peut pas mourir simplement comme agitateur politique. Le mettre dans un de ces endroits, c'est l'empêcher de faire la volonté de Dieu et de mourir comme l'agneau de Dieu parce qu'il s'annonce être le Messie, le Fils de Dieu. Bien, ok, nous avons fini une bonne moitié et maintenant nous allons essayer de comprendre le cœur de la réponse de notre Seigneur qui nous concerne aussi. Notre manière de vivre avec notre gouvernement et avec notre Dieu. Bien, point 4. Jésus renverse la situation et appelle ses accusateurs au banc des accusés. Vous allez voir qu'à la fin de cette histoire, on s'étonne de lui et la situation est complètement renversée. Ce n'est pas Jésus qui est attaqué et mis en cause, mis au banc des accusés, mais c'est Jésus qui pose les questions, qui donne les commandements, qui expose et donc qui amène les gens à s'étonner de lui. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est la première chose que nous voulons comprendre. Si vous allez comprendre ce qui se passe ce jour-là et pourquoi Marc, Matthieu et Luc rapportent cet événement dans leurs évangiles, c'est que ce n'est pas une simple histoire de ruse et de sagesse pour répondre à une bonne devinette, n'est-ce pas? Quelqu'un te donne une devinette et, n'est-ce pas, dans les anciens temps, on nous disait que quelqu'un barrait le chemin et tu ne peux passer que si tu réponds bien à sa devinette, n'est-ce pas? C'est pas ça ici. Ils sont en train d'essayer de discréditer le Messie de Dieu, de trouver faute et mensonge en celui qui est vérité et qui est venu pour montrer la vérité et la lumière au monde. Et ils veulent le trouver, lui, égaré, fautif. Donc, en d'autres termes, ils veulent donner à tort à Jésus afin de maintenir leur religion hypocrite et de repousser le royaume de Dieu qui est en train d'arriver avec Jésus, de les exposer, d'exposer leur fausse manière de vivre la foi, de montrer qui est le vrai Dieu dans le visage du Christ. Ils veulent repousser tout ça en lui donnant tort, en le casant quelque part, afin de continuer à vivre une foi mensongère. C'est ça qui est en jeu ici. Donc Jésus va exposer leur motivation, il va tout ouvrir et il va montrer le vrai problème. D'accord, comment est-ce que Jésus renverse la situation? Il donne deux arguments. J'ai appelé le premier argument un argument ad hominem, qui veut dire en latin plus ou moins que avant de s'occuper de la question, on va s'occuper de la personne, l'homme. D'accord? Et ce qui ne va pas chez lui. Et Jésus dit d'abord, apporte-moi un denier. Maintenant, il faut comprendre que les Juifs n'utilisaient pas le denier dans les affaires de tous les jours. Ils utilisaient des pièces en cuivre qu'ils faisaient eux-mêmes et non pas cette pièce en argent faite par l'empereur parce qu'il y avait cette inscription que l'empereur était un dieu et que c'était un blasphème pour eux. Donc Jésus, quand il dit « Apporte-moi un denier », et les pharisiens peuvent lui sortir un denier, ah, d'accord, Jésus n'a pas de denier, lui. Il n'est pas sali dans cette affaire. Mais les pharisiens, eux, ils ont des deniers. Ils ont dans leur poche la pièce qui dit que l'empereur est le fils divin. Donc, avant d'aller plus loin, c'est comme pour dire, vous voulez me discréditer? Alors que c'est vous-même qui vivez déjà dans l'hypocrisie, avec les pièces d'argent dans vos poches. Apportez-moi un denier. Mais le plus important est à venir dans ce que Jésus va leur dire. D'abord, et c'est son enseignement théologique, il va d'abord corriger une erreur théonomiste. Alors théonomiste, excusez-moi pour le latin tout à l'heure et maintenant le mot théologique, ça veut dire tout simplement quelqu'un qui croit, comme Judas le Galiléen, qu'on ne peut pas avoir un président ou un roi humain. C'est Dieu qui doit régner directement. Ok? Et donc, les zélotes pensaient que ceci. Ils disaient que là où on utilise une monnaie couramment, on est en train de reconnaître l'autorité sur nous de celui qui a fait cette monnaie. Dès qu'on accepte d'utiliser une monnaie, on accepte l'autorité de celui d'où vient la monnaie. Et donc pour les zélotes, utiliser et payer cet impôt à César, c'était reconnaître que César est le fils divin. Donc ça c'est une logique assez noire et blanc, n'est-ce pas? Et Jésus répond de cette façon. Il dit, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors rendez à César ce qui est à César. La première partie de la réponse de Jésus, c'est de montrer que, il faut bien qu'on se rappelle qu'il ajoute « et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Il dit que les deux choses ne sont pas incompatibles, comme les zélotes veulent dire. Qu'on peut et on doit obéir à une autorité humaine, même si c'est un empereur païen, si il est évident que cet empereur, dans la providence de Dieu, a de l'autorité civile sur nous. Et quand il demande qui est sur cette pièce, Jésus est en train de dire, vous avouez vous-même que vous êtes sous le pouvoir administratif et civil de l'Empire romain. Et vous profitez tous les jours de ce que l'empereur fait pour vous. Il construit des routes. Ses soldats vous protègent. Ils empêchent des soulèvements qui tuent. Et vous profitez partout sur le plan civil de la présence du gouvernement et de l'ordre romain. Et la preuve en est que l'argent de l'Empire est utilisé ici. Et il dit donc, rendez à César ce qui est à César. Que pour ses services, il est normal, et parce qu'il a l'autorité sur vous, il est normal que vous lui rendiez un impôt, que vous payiez pour ses services. Maintenant, il y a des gens qui refuseraient de penser ainsi, qui, avec une idée vraiment étroite, diraient que un non-croyant, un athée, ne peut pas dominer, gouverner des croyants. Mais Jésus pense autrement. Il est en train de dire que Dieu établit l'autorité où il veut et comment il veut. Et sur le plan civil, il peut bien, et parfois pour vous châtier, vous donner ce que vous méritez, c'est-à-dire un gouvernant qui n'est pas le meilleur. Et si Dieu a fait ainsi, votre devoir, c'est de vous soumettre à l'autorité civile qui est placée sur vous. En fait, la Bible enseigne ceci dans le livre de Romains, chapitre 13, et là, nous devons bien comprendre en tant que chrétiens que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, même l'empereur romain. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité civile résiste à l'ordre de Dieu. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car elle, l'autorité civile, est au service de Dieu, même si elle ne croit pas en Dieu. Elle est au service de Dieu pour ton bien. Nous devons donc comprendre qu'il y a un Dieu beaucoup plus grand que le Dieu des Zélotes. Un Dieu qui peut servir, qui peut se servir de César comme d'un autre pour mettre de l'ordre civil dans nos villes et dans nos pays pour notre bien. Rendez à César ce qui est à César et vous êtes en train de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. En partie. Mais cette phrase, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, montre que en rendant à César, il n'y a pas de compromis. Parce qu'on va toujours rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu et non pas au César. N'est-ce pas? César ne peut pas revendiquer mon adoration, comme sur la pièce, ou mon obéissance morale, comme était un avortement. Loin de là, il ne peut pas, parce que cela appartient à Dieu de me commander sur le plan moral ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est à Dieu de recevoir la gloire suprême et l'adoration. Donc, l'autorité civile n'a rien à faire là-dedans. Donc Jésus est en train de dire, les Zélotes, vous avez tort. Payer l'impôt, c'est pas donner, ça ne veut pas dire que vous devez donner l'adoration ou l'obéissance morale. Il est bien possible d'obéir sur le plan civil à l'autorité civile et d'obéir à Dieu sur le plan moral et spirituel. Ça veut dire parfois qu'on doit, et heureusement rarement, désobéir à l'autorité civile. Si l'autorité civile dans un endroit vous demande de ne pas témoigner de votre foi en Jésus-Christ, comme les apôtres en Actes chapitre 4, vous devez dire, jugez vous-même si nous devons obéir aux hommes ou à Dieu dans cette affaire. Dieu nous commande de faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde. Donc on ne peut pas donc nous interdire. Même si nous devons être respectueux des temps, n'est-ce pas, et des manières d'évangéliser, si le patron vous paye pour travailler dans l'usine et vous n'êtes pas en train de travailler, vous êtes en train de faire part de l'évangile à quelqu'un, là, le patron peut vous mettre à la porte, bien sûr. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que le chrétien a le devoir. Donc, d'obéir à l'autorité civile, à moins que cette autorité civile l'oblige à commettre un péché moral, à faire ce qui n'est pas moralement bien ou à ne pas faire
ne pas rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et bien des chrétiens ont payé ce prix pour la désobéissance, bien sûr, à l'autorité civile, mais heureusement, nous ne sommes pas dans ce cas aujourd'hui. Alors, donc Jésus corrige cette erreur théonomiste. Nous n'avons pas besoin d'une loi charia chrétienne. Pas du tout. Nous, notre foi est complètement capable de coexister avec un gouvernement civil et laïque. Bien sûr, nous devons lutter pour que laïque ne signifie pas athée et contre le christianisme. Le mot ne signifie pas cela. Mais la foi chrétienne est bien capable de vivre dans le monde tel qu'il est et on n'a pas besoin de changer par force ou violence les lois civiles pour pouvoir vivre notre foi. C'est la gloire de notre foi. Maintenant et dernièrement, Jésus expose un profond péché et met en lumière notre vrai problème. Montrez-moi une pièce d'argent. Quelle est l'image sur cette pièce? Celle de César. Rendez à César ce qui est à César. C'est-à-dire ce qui porte son image témoigne de sa propriété, du fait qu'il est propriétaire, parce que c'est son image. Il a imprimé son image sur ses pièces pour dire « c'est à moi ça, cet argent, je l'ai fait, je l'ai trouvé, cela m'appartient ». Mais la question brûlante pour Israël à l'époque n'est pas la question d'un impôt envers un empereur injuste. La question brûlante à toute époque, et pour nous, c'est de qui portez-vous l'image? Et derrière la réponse de Jésus, qui est l'image sur cette pièce? Celle de César. Alors, donnez à César ce qui est à César, et donnez à Dieu ce qui est à Dieu, parce que son image est aussi quelque part. Où est-elle? Sur nous, n'est-ce pas? Et Jésus est en train de dire que la question brûlante pour nous, pour l'homme, pour moi, pour vous, c'est quelle image est-ce que je porte? Et qu'est-ce que ça me montre au sujet de moi-même? Et le grand problème de l'humanité aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas, ils disent, notre grand besoin de savoir qui je suis. Non! Ce n'est pas de savoir qui vous êtes, c'est de savoir à qui vous êtes. C'est de savoir à qui vous êtes. Parce que vous êtes l'image de Dieu. Dieu a imprimé sur vous son image pour vous dire, vous êtes à moi. C'est ça votre identité. Quand Jésus dit « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu », il change aussi les verbes un peu. Les pharisiens avaient demandé « Est-ce que nous devons payer le tribut ?» Payer, ce n'est pas rendre. Vous savez que si quelqu'un vient chez moi, ramasse mes cerises sans que je voie, et vient essayer de « Je voudrais vous donner des cerises. » Mais ça, vous ne m'avez rien donné. « Rendez-moi mes cerises, n'est-ce pas ?» Et donc, ils pensaient qu'ils ne devaient rien à César, mais c'était, ils vont faire quelque chose de bien, n'est-ce pas? Et parfois, dans notre évangélisation, nous faisons ça aussi vis-à-vis de Dieu. On dit « Donne ta vie à Jésus », n'est-ce pas? « Donne ta vie à Jésus », tu ne donnes rien. Ta vie est à Jésus-Christ, déjà. Rendez-lui ce qui est à lui. Ça, c'est un message différent, n'est-ce pas? Quand on dit donne, ouais, je décide si je veux ou non, n'est-ce pas? Ça manque la force morale de l'appel. Revenez, rendez-vous à votre Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ça que Jésus est en train de dire aux pharisiens, que votre problème
est beaucoup plus grand que César. Rendez à ce qui est à César. Mais il y a un autre commandement qui vient vers vous. Et je vous le dis, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Vous, sur qui son image se trouve. Chacun de nous doit s'examiner. Si on n'est pas en Christ, ça c'est une question primordiale. Suis-je, est-ce que je porte l'image du Dieu créateur? Et si je porte son image, ça veut dire qu'il me dit, tu es à moi. Attention, ça veut dire que comme pour la pièce, César est l'autorité et Dieu est votre autorité. Mais ça veut dire autre chose aussi. Ça veut dire qu'il y a un lien entre ton Dieu et toi qui est incassable. N'est-ce pas? Parce que quand Dieu dit ton image, mon image est sur toi, ça veut dire que on n'est pas sans relation, on n'est pas sans rapport. Tu ne peux jamais être sans rapport à Dieu. Tu es à moi, j'ai établi un lien entre toi et moi parce que je te voulais jamais exister sans moi et sans être à moi. Moi, je pense que le plus grand problème psychologique, dans un sens, ou un des plus grands, c'est que, et les jeunes savent fort bien ce que je veux dire, c'est qu'on veut appartenir. N'est-ce pas? On veut appartenir. On veut faire partie du groupe. N'est-ce pas? Le plus grand mal, c'est quand je n'appartiens à rien, à personne. Ça, c'est vraiment... Tu arrives dans un nouvel endroit et tu ne fais pas partie d'aucun groupe, d'aucun... Quand tu n'appartiens à rien, c'est le malheur. Mais dans ton cœur... La vraie appartenance à laquelle Dieu t'appelle à revenir, il dit « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Tu m'appartiens. » C'est là que tu trouveras le vrai sens. Et appartenir à Dieu, ça c'est vraiment glorieux. Le Dieu d'amour. Peut-être nous, chrétiens, nous aussi, nous devons... Et je suis le premier, pensez plus souvent à notre vie chrétienne en ces termes, de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire moi-même tout entier. Et de voir cela tout simplement comme mon devoir naturel et mon plus grand privilège. Nous allons chanter pour répondre à... La parole du Seigneur, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans le recueil, le numéro 298.
Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il paie le profond de notre âme, et qu'il juge en nous le péché, qu'il juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes et passées, sondent nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs. Gale la lumière qui nous traverse, pour que tout sois purifié. Et quand nous ton esprit nous laisse, rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors brûlant de nouveaux ailes, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir, qui veulent te servir.
Nous nous tournons vers le Seigneur dans la prière. Sentez-vous libre de prier.
Seigneur, oui, nous voulons reconnaître que c'est à toi que nous appartenons et pas à ce monde. Et c'est à toi que nous voulons revenir sans cesse, même si nous avons constamment tendance à lorgner du côté du monde et à même à nous laisser séduire. Seigneur, comment peut-on être assez stupide pour mettre notre confiance dans ce monde? Qu'est-ce qu'il a à nous offrir sinon des occasions de tentation et de chute? Garde-nous près de toi, Seigneur, et donne-nous vraiment la fidélité jusqu'au bout. Dans le nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Père, tu nous commandes de prier pour les autorités, pour les personnes qui sont à la tête de nos pays. Et alors Seigneur, nous voulons t'apporter les politiciens de ce pays, les politiciens des pays qui nous entourent, en te demandant de les équiper, de leur donner de la sagesse, des convictions, d'être courageux dans les décisions qu'ils prennent, et qu'ils aient un désir de conduire nos pays avec droiture et en marchant aussi dans tes voies. Seigneur, nous te prions aussi particulièrement pour les chrétiens qui sont impliqués en politique, que tu puisses leur donner à eux aussi du courage pour tenir ferme dans un milieu qui est souvent hostile à ta parole. Seigneur, nous te demandons de nous aider, nous, à savoir agir dans ce monde comme des personnes qui t'appartiennent, mais à toi, qui te rendent ce qui t'appartient, mais qui savent aussi se soumettre aux autorités, à montrer l'exemple, à être des citoyens dans ce monde aussi. Seigneur, tout en nous rappelant que c'est à toi que c'est toi notre plus haute allégeance, c'est à toi que nous devons rendre toute chose, notre vie, et c'est à toi que nous devons obéir. Et Seigneur, te demandons de nous aider aussi à savoir avoir le discernement lorsqu'il faut t'obéir plutôt qu'aux autorités humaines. Seigneur, donne-nous ce discernement et cette sagesse. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Seigneur Jésus, combien tu es sage et combien cette sagesse est loin de la nôtre, loin de celle des hommes. Nous te glorifions, Seigneur. Et Père, merci parce que tu nous as créés en ton image et tu as formé en nous ce désir qui est d'appartenir à quelque chose. Et combien nous sommes seuls quand nous n'avons pas cette appartenance avec toi. Nous te demandons de nous aider à combler ce désir seulement avec toi, Seigneur. Amen.
Amen.
Seigneur, nous t'appartenons et nous t'en louons et t'en remercions. Et te supplions de nous ramener encore vers toi, afin que nous dévorions de ta vie, afin que d'autres le voient et qu'ils viennent à toi, et que ton Église grandisse. Amen.
Oui. Oui, notre Dieu, il n'y a rien de plus grand que d'être revenu chez toi, chez nous, en toi, de t'appartenir à toi, le Dieu de grâce infinie, de gloire éternelle.
de trouver un repos complet, non pas en ce que nous sommes, mais celui à qui nous sommes. Nous t'en bénissons, nous voulons te rendre ce qui est à toi et être un sacrifice vivant pour toi. Nous t'admirons, notre Seigneur Jésus-Christ, la manière dont tu fais venir la lumière dans les ténèbres des âmes, comme dans cet incident. Comment tu peux renverser nos ténèbres et mettre d'aplomb tout ce que nous avons égaré et enténébré. Nous te bénissons, Seigneur, et nous prions que tu sois celui qui constamment dans nos vies nous remet à droit. Nous te prions pour la discussion de tout à l'heure après le repas sur les activités de l'Église et l'évangélisation. Nous te prions, Seigneur, de nous donner ta sagesse, de nous guider toi-même, car nous sommes faibles et sans sagesse en dehors de toi. Amen.